Les cailloux seront plus doux sous vos pas. Voici le titre de votre dernier ouvrage, Anne la Cervergne. Bonjour.
Bonjour Mathias.
Merci d'être là avec nous pour nous parler de ce livre, Les cailloux seront plus doux sous vos pas, paru aux éditions Entre deux mondes, EDM, et qui est sans doute le livre le plus personnel, le plus intime que vous ayez écrit. On vous doit des livres sur les Pyrénées, on vous doit un ouvrage aussi, ou peut-être plus d'ailleurs sur Ludovic Gorier.
Oui, deux ouvrages.
Deux ouvrages, et puis un roman, L'ombre et la
D'ombre.
d'ombre et de lumière. Alors, quand je disais que ce livre est le plus personnel que vous ayez écrit, on a le sentiment que on chemine avec vous dans votre âme pratiquement, dans votre tête. Est-ce que vous diriez que ce livre plein d'espérance, nous allons le voir, est né quand même d'une souffrance, d'une douleur, notamment la douleur du deuil?
Oui, alors il est évident qu'il est né de la douleur du deuil, Mathias, comme vous le dites, mais il est né aussi de questions que je me posais concernant l'essentiel. Bon, c'est une question qui m'a hantée très très jeune, j'avais 30 ans, quand je me suis dit que je passais à côté de l'essentiel de ma vie. Mais bien sûr, Mathias, je ne savais pas du tout ce que pouvait être cet essentiel. Et je le cherchais, par exemple, au fin fond de ma boîte aux lettres, comme si une lettre allait arriver et me dire ce qu'était l'essentiel de ma vie. Ça a été un départ, plus toutes les interrogations que les deuils obligent à se poser. Par exemple, quel est le sens de ma vie, mais aussi quel est le sens de la vie en général.
Donc cette question du sens vous taraude depuis toute petite pratiquement, et vous avez avancé dans la vie avec ce questionnement sans trouver de réponse pendant tout ce temps-là.
Sans trouver de réponse, effectivement, pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce qu'en 2012, ben je me mette à chercher des réponses de manière plus intime. Bon, j'avais cherché des réponses, Mathias, en lisant énormément, en lisant de nombreux ouvrages, comme ceux d'Alexandre Jolien, de Mathieu Ricard, en cherchant des réponses aussi auprès de mes proches, aussi dans la foi catholique, bien sûr, puisque j'ai été élevée dans la foi catholique. Mais en même temps, ça ne résolvait pas cette peur intense de la mort que j'avais au plus profond de moi. Depuis mon plus jeune âge. Bon, il faut dire que c'est une famille, surtout la famille de ma mère, qui a été fortement marquée par la mort et celle de mon père aussi. Alors, est-ce que, enfant, j'en ai beaucoup entendu parler? En tout cas, la mort était pour moi quelque chose de terrifiant et surtout, il fallait que je lutte dès mon plus jeune âge contre le néant.
Les premiers chapitres de ce livre, justement, abordent hein, cette question de la mort. Et à aucun moment, la question de la mort dans ce livre n'est abordée de façon effrayante. Vous n'en êtes plus là au moment où vous écrivez ce livre. C'est en tout cas le sentiment qu'on a en vous lisant.
Oui, et c'est pour ça que je me suis permis de publier ce livre, parce que, comme vous l'avez dit, c'est plutôt d'une vision tout à fait nouvelle, enfin pour moi, mais surtout positive, optimiste de la vie. Et effectivement, bon, j'ai connu des deuils importants pour moi. Ma grand-mère est morte quand j'étais relativement jeune. J'ai perdu une sœur qui avait 14 mois de moins que moi en 99. Et paradoxalement, quand ma sœur est morte, la peur de la mort a disparu parce que je me suis sentie très reliée à elle. Elle n'était pas absente réellement. Elle était absente physiquement. Je ne pouvais plus lui écrire, je ne pouvais plus lui parler, je ne pouvais plus la voir. Elle était absente lors des réunions de famille, des Noëls, à Pâques. Mais elle était présente en moi, auprès de moi. J'ai eu des grandes conversations avec elle.
Vous écrivez notamment hein, sur cette question de la mort, l'homme dissout son être et la mort devient l'ultime épreuve, celle où il lui est demandé d'être vrai. La mort est l'ultime chance d'être le dernier cadeau de la vie, la vérité suprême, mourir, c'est naître à soi-même. Donc c'est la mort qui est envisagée comme presque une résurrection, enfin en tout cas quelque chose
Oui,
d'autre après.
voilà, une naissance à soi-même, parce qu'une naissance à autre chose. Et peut-être, de plus en plus, j'en suis venue à l'idée que finalement, notre âme, elle fait sur Terre une expérience humaine, et que, j'allais dire grâce à la mort, elle peut redevenir pleinement âme, d'où cette naissance, même si la vie nous oblige à renaître souvent à nous-mêmes, la naissance suprême, en quelque sorte, c'est, pour moi, elle vient avec la mort. Et si on réfléchit bien, il y a toujours l'envers et l'endroit. Sans la mort, il n'y aurait pas de vie. Et sans la vie, il n'y aurait pas de mort.
Les uns et les autres, nous sommes tous ou effrayés par la mort, ou effrayés par la vieillesse, par une forme de décrépitude, que sais-je. Vous-même, ça vous frappe sans doute, ces craintes, ces peurs encore, tout de même.
Oui, Mathias, oui, elles me frappent parce que je les vois autour de moi. Et ben, je sens aussi que je vieillis. Par exemple, qu'il y a des choses que je faisais et que je ne fais plus. Mais il y a quelque chose de nouveau que m'a permis l'écriture aussi de ce livre et l'observation parfois d'être très chère, c'est qu'il faut être dans l'accueil des événements de la vie, que la vie est mouvement et que si on accueille la vie, tout devient beaucoup plus facile, tout devient beaucoup plus vrai, tout devient... On peut se relier dans ces cas-là à des mots qui sont très importants pour moi, à son âme, mais surtout à l'amour et à la joie qui sont en nous.
Justement, il y a un chapitre, joie et amour. Et ce chapitre, c'est comme une ode à la joie, c'est incroyable. Alors, on sort presque d'un sentiment avec vous de deuil, de doute, d'interrogation. Et puis là, on entre dans la lumière de la joie. C'est votre chemin aussi, ce que vous décrivez à travers ce livre ?
Oui, Mathias, c'est mon chemin. Et finalement, j'ai découvert que la joie était véritablement en chacun de nous. Mais c'est à nous à la faire jaillir, cette joie. Elle ne demande qu'à jaillir. Et la joie et l'amour, avec un grand A, bien sûr, un amour universel, en quelque sorte, pour la vie, pour les autres, la joie et l'amour peuvent accomplir des miracles, je pense.
Vous écrivez même « La joie peut transformer le monde ».
Oui.
Quel programme.
Effectivement, je le crois parce que la joie nous permet de ne douter de rien, de penser que tout est possible et que peut-être on pourrait avoir plus de fraternité autour de nous, sur le monde, sur la planète, que la vie peut rester et devenir un cadeau. Parce que je suis persuadée qu'elle est un cadeau et c'est nous qui nous mettons des obstacles par peur, comme je l'ai fait pendant des années, par absence effectivement de joie. Et j'ai découvert à propos de la joie, Mathias, quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est qu'on peut avoir le cœur fendu et l'âme en joie.
Vous écrivez même « Le chagrin devient joie ».
Oui.
C'est possible.
Le chagrin peut devenir joie et oui, je peux l'affirmer, le témoigner, puisque bon, j'ai connu de profonds chagrins encore il y a un an et demi et je sais que la joie peut rester tout près. Ça n'empêche pas de temps en temps une peine immense, mais il n'y aurait pas de joie sans peine.
On est toujours, quand on chemine avec vous dans cet ouvrage, à la fois confronté à la réalité de la vie telle que la voit avec les uns et les autres, parfois avec sa noirceur, ses difficultés. Bon, vous employez les mots d'absence, du soir, la mort, les ténèbres. Et puis, face à ces mots, il y en a d'autres dans lesquels vous nous engagez, hein, que vous nous proposez. C'est l'espoir, c'est le germe de vie, c'est la clarté, c'est la lumière. Est-ce que vous diriez que chaque jour, pour vous, c'est aussi cela, c'est-à-dire la réalité de la vie à laquelle vous êtes confronté, et puis un acte de la volonté, quelque part, pour dire « mais la lumière est aussi là ».
Oui, parce que pendant des années, je me suis laissée accabler par la par le ça pouvait être le désespoir, la tristesse, les obstacles de la vie. Et ma phrase préférée, Mathias, je peux vous l'avouer, était une phrase de Camus: il n'y a pas d'amour de la vie sans désespoir de la vie. Et maintenant, je ne dirais plus ça du tout. Et par exemple, le matin, parfois que je me lève et je sens cruellement l'absence de l'être aimé, mais très vite, je me dis que on je n'ai pas à me laisser envahir par cette absence, qu'elle est là et que je peux rendre l'être aimé toujours présent et qu'il faut accueillir le jour. Parce que l'on soit triste ou non, le jour est là. Il nous attend, il nous accueille et c'est à nous aussi de l'accueillir en nous.
Je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre. Alors, je me permets ce petit livre parce qu'il n'y a pas des centaines et des centaines de pages, il y en a 200 hein,
Oui.
pratiquement. Mais par contre, un beau, magnifique livre qui va vous accompagner. Je suis sûr qu'il restera longtemps à côté de vous. Les cailloux seront plus doux sous vos pas, signé Anne Lasservergne, et paru aux éditions Entre deux mondes, EDM. Nous marquons une pause si vous le voulez. Et juste après, nous parlons de l'âme. Parce que ce mot est très présent dans votre ouvrage. À tout de suite, Anne. Les cailloux seront plus doux sous vos pas, c'est votre dernier ouvrage, Anne Lasservergne. Et nous disions en commençant, et je vous disais en commençant, que j'ai le sentiment que c'est votre vie intérieure que vous nous livrez. Alors, il y a beaucoup de pudeur, et en même temps, c'est un acte difficile de livrer sa vie intérieure. Vous sortez d'un deuil, le décès de votre époux, et vous nous livrez cet ouvrage qui est plein d'espérance. Il y a presque un étonnement en vous lisant, quand on vous suit aussi, peut-être un peu plus personnellement, et on se dit, mais comment c'est possible de sortir de la souffrance un ouvrage qui est comme l'éloge de la joie et de l'amour? Comment c'est possible?
Alors, comment c'est possible, Mathias, effectivement? Bon, je pense que c'est le fruit d'un long cheminement que j'ai commencé en 2012. Mon époux était déjà malade, mais bon, il n'y avait rien de très alarmant. Mais cependant, j'ai ressenti le besoin d'aller au-delà du matériel, au-delà, partir en quête en quelque chose, d'autre chose que ce que la vie nous donne tous les jours. Enfin, aller au-delà du perceptible, aller vers quelque chose qui nous dépasse, que l'on appelle la transcendance. Et de plus en plus, j'ai ressenti effectivement la présence de l'âme en nous. Cette présence que j'avais peut-être ressentie, nous en avons parlé hors micro quand j'avais 20 ans et que je devais subir un examen à l'hôpital La Grave à Toulouse, et qu'en franchissant le pont de la Garonne, j'ai ressenti véritablement la vie couler en moi tout en marchant, et la présence du divin. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, une joie profonde que je n'ai pas oubliée, et pourtant c'était il y a des dizaines d'années.
Alors qu'à ce moment-là, vous avez peur, vous avez une crainte, c'est celle d'avoir une maladie, qu'on vous
Oui.
découvre tel ou tel problème, hein, vous allez à l'hôpital.
Voilà, et j'étais terrorisée d'être toute seule. J'allais voir un grand ponte, il y aurait plein d'internes auprès de lui, et on ne savait pas du tout ce que j'avais. En fait, ce n'était pas grave du tout, mais à ce moment-là, je ne le savais pas.
Vous diriez-vous, Anne, que vous avez vécu une expérience de foi à ce moment-là?
Oui, je pense effectivement, Mathias, que c'était une expérience de foi, puisque j'aimerais beaucoup la retrouver. Je ne l'ai jamais revécue avec cette intensité, mais plus j'y repense, plus je me dis qu'effectivement, il y a en nous une part de divin, et que cette part de divin, nous ne pouvons pas l'oublier, et que si nous accordons de l'importance à notre corps, à notre intellectuel, enfin à notre mental, il faut surtout ne pas oublier notre âme qui est très présente et que je sens de plus en plus présente. Et pour définir la communication, je dirais que c'est avant tout la bonne communication, une communion d'âme.
Ce mot âme, il est omniprésent dans le livre. Il y a notamment cette phrase, alors là, vous attribuez au nouveau-né des capacités dans le domaine supérieures aux adultes, hein? Les nouveau-nés communiquent d'âme à âme. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les nouveau-nés? Qu'est-ce qu'on perd en grandissant?
Voilà. Alors, effectivement, c'est quelque chose que je ressens profondément. Quand je regarde un nouveau-né, j'ai l'impression de lire son âme sur son visage. Et alors, ben, je pense qu'ils ont tout. Et c'est nous qui perdons, finalement, en quelque sorte, on nous formate, on nous met des couches sur un plan éducatif, intellectuel, etc. On nous coupe, en quelque sorte, de notre âme. Et le chemin, pour moi, spirituel, c'est de s'alléger de plus en plus de tous les codes qui nous ont aidés à grandir, mais qu'il faut faire craqueler pour retourner vers soi et vers son âme que l'on a ensevelie, en quelque sorte, sous plein d'interdits ou de codes qui font que nous ne sommes plus nous-mêmes en quelque sorte.
Si je puis me permettre, pourtant, Anne Lasservergne, ces codes, vous vous en êtes bien servi tout au long de votre vie, vous qui avez enseigné, qui avez eu charge d'âme, entre guillemets, à travers tous ces jeunes auxquels vous avez enseigné la littérature, le français.
Voilà, je ne les regrette pas. Non, non, ces codes, ils m'ont aidé à me construire, à me donner une bonne colonne vertébrale, et je les ai moi-même transmis. Mais je pense qu'à un moment, au travers de ces codes, il faut faire des petits trous, pas des grands trous. Il ne faut pas les abattre. Mais il faut se dire que on n'est pas obligé de rester, par exemple, uniquement la fille de ses parents, l'épouse de son mari, un professeur, mais qu'on peut aller davantage vers soi. Et je crois, ce qui m'a permis d'avoir des relations tout à fait intenses avec des élèves, c'est que j'ai fait un peu plus qu'être un professeur. Je pense que inconsciemment, je leur donnais toujours un peu de moi-même. C'était essentiel. Je m'en suis rendu compte les dernières années du professorat, mais je pense que je le faisais déjà avant sans m'en rendre compte.
Vous croyez donc à la communication des âmes,
Oui.
à la communion des âmes.
Oui.
C'est similaire à l'empathie ou pas? C'est autre chose que ça. Ça n'est pas se pencher sur la situation de son prochain ou des autres ou de...
C'est, à mon avis, c'est autre chose, enfin, peut-être que cela permet l'empathie.
Ça peut
Et
être une conséquence.
voilà, et l'empathie, c'est un sentiment que je connais très fortement. Mais il y a quelque chose de supérieur à l'empathie, c'est cette communion d'âme, le fait qu'on peut être relié par les âmes. Et si pour moi c'est si intense, c'est qu'après la mort de ma sœur, par exemple, j'ai eu l'impression d'être reliée à son âme, de communiquer avec elle pendant des mois. Elle a été très présente. J'avais l'impression que nos deux âmes étaient reliées. Et j'ai eu ce même sentiment un peu avant la mort de mon époux et par la suite, où je le sens très présent. Et c'est peut-être lui qui me donne aussi cette force, cette joie. On n'est pas reliés. Tous ceux qui nous ont quittés, je les ressens très présents. Autour de moi, j'ai l'impression qu'ils sont là.
D'ailleurs, vous écrivez, page 75, accepter l'absence pour savourer la présence.
Oui.
Quelque part, c'est une façon de dire que les âmes communient, se parlent,
Oui.
et qu'il y a une présence au-delà de la présence physique
Oui,
et
c'est.
corporelle.
Voilà, j'ai l'impression que nos sens, finalement, ne sont pas trompeurs, mais en même temps, ils sont très déficients. Ils ne nous permettent pas peut-être d'entendre ou de voir ce qui pourrait, ce qui nous dépasse, enfin, je veux dire, ces présences auprès de nous. Bon.
Oui. Ce livre ne parle pas que de la reliance au divin, ne parle pas que d'âme. Il y a aussi un chapitre sur la liberté, il y a des chapitres sur la transparence, la conscience, l'unité. En fait, sans le vouloir, en écrivant votre journal de bord, votre journal de vie au quotidien entre 2012 et 2017, parce que ce livre est le fruit de ce journal. Vous nous livrez comme un petit livre de sagesse. Vous en avez le sentiment? Vous l'avez un moment perçu cela en écrivant?
Je l'ai perçu surtout Mathias en le relisant ou en donnant de temps en temps à des amis ou à des êtres que j'aime bien, en lisant un ou deux textes. Et les personnes étaient très touchées, me demandaient que je leur recopie ce passage. Ben, elles voulaient l'avoir avec elles pour le lire, le relire. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai eu l'audace, en quelque sorte, de le publier, parce que je me suis rendu compte que même si je partais de moi, si je m'étais reliée à moi, il y avait quelque chose d'universel, et peut-être que cette vie que je perçois comme un cadeau, je pouvais faire partager ce sentiment à d'autres personnes, peut-être les aider à avoir un peu plus de joie en elles, à s'unifier. Je pense que le chemin spirituel nous aide à nous unifier, à dépasser tous les conflits intérieurs qui peuvent naître justement des fameux codes éducatifs, familiaux, sociaux, etc.
Lorsque vous envoyez le manuscrit à un éditeur, vous vous dites que vous allez être publié ou vous vous dites secrètement, oh, j'espère qu'il ne va pas aimer et qu'il ne va pas publier.
Alors là,
Parce que c'est
effectivement,
tellement intime, on se dit,
oui.
quel acte quand même. Vous parliez d'audace,
Oui,
on est dans l'audace.
on est dans l'audace et effectivement, donc j'ai été un petit peu poussée par quelques personnes qui n'avaient lu que quelques passages. Donc j'ai envoyé comme une bouteille à la mer, effectivement en ayant très peur, et je n'ai envoyé que quelques pages à un éditeur que je ne connaissais pas, mais qui publiait ce genre d'ouvrage. Et je me souviens qu'une fois, en rentrant de Montauban, j'étais là depuis 10 minutes, chez moi, le téléphone sonne et une voix inconnue me dit: « Mais j'aime beaucoup, il faut que vous m'envoyiez le reste du manuscrit. » J'avoue que j'étais totalement perdue. Et c'était donc l'éditeur Yannick Lecam, des éditions Entre-deux-Mondes, qui n'avait lu que quelques pages, qui voulait le reste et qui a été conquis très tout de suite par le manuscrit et qui a donc décidé de le publier. Et effectivement, Mathias, je dois vous avouer que j'ai passé un très mauvais mois d'août en pensant que le livre allait sortir au mois de septembre. Je redoutais le regard qu'on allait porter sur lui. Bon, maintenant je suis rassurée parce que j'ai des échos quand même qui montrent que l'essentiel ou l'essence du livre est comprise par les lecteurs.
Oui, un livre très touchant. Vraiment, Les cailloux seront plus doux sous vos pas, paru aux éditions Entre-deux-Mondes et signé Anne Lasserverne. Ma toute dernière question, elle concerne le genre que vous avez choisi pour publier. Alors, nous avons parlé d'un journal, c'est la
Oui.
base, hein, c'est votre journal intime, personnel, entre 2012 et 2017, et puis ça donne lieu à ce livre. Mais au-delà de cet aspect-là, qui n'est pas un aspect de journal, on a le sentiment que c'est de la poésie. On lit comme des poèmes à certains moments. Vous
Oui.
l'avez voulu comme tel?
Au départ, non, j'écrivais effectivement pour moi, mais je me suis rendu compte que Bon, vous le savez, Mathias, les mots ont toujours beaucoup d'importance pour moi, le choix des mots est important, et finalement, les phrases me venaient telles qu'elles venaient, toujours des textes très courts, et j'aime beaucoup aussi parler par métaphore. Trouver le terme le plus juste, qui soit en quelque sorte le plus universel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être parce que la parole est mon chemin, c'est que c'est le seul bien que je possède, c'est ma seule richesse. Et je me suis dit qu'il fallait le faire partager, en quelque sorte ce don que je ne pouvais pas le garder pour moi, égoïstement.
La parole est mon chemin. On garde cette belle phrase que certains peut-être peuvent reprendre à leur compte, hein, avec un acte de foi en mettant un grand P sur parole. Vous, vous dites la parole parce que vous avez écrit, hein, beaucoup durant toute votre vie. La parole est votre chemin. Et cela vous permet de vous dire, de dire ce qu'il y a de plus profond en vous. Merci pour ce partage, Anne Lasserverne. Je rappelle une dernière fois que le titre de l'ouvrage, c'est Les cailloux seront plus doux sous vos pas. D'ailleurs, c'est une des phrases, hein, du livre que vous avez reprise en titre. Et c'est signé Anne Lasserverne avec l'éditeur Entre deux mondes, EDM. Merci.
Au revoir, Mathias.
Au revoir.